Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et nous démarrons l'émission avec l'appel d'Isabelle. Bonsoir à vous, Isabelle.
Bonsoir. Vous allez bien ?
Soyez la bienvenue. Oui, il paraît qu'on se connaît.
Oui, on s'est déjà parlé. J'avais parlé de mon métier. Je suis fruitière.
Oui, je me souviens, vous nous aviez parlé de cette vie très particulière, de votre amour même pour ce métier, parce qu'on sentait beaucoup de passion à l'époque. Et je me souviens que ça avait intéressé beaucoup de gens, finalement, de découvrir un métier comme celui de grutière, qui n'est pas courant. Et on avait eu beaucoup de réactions suite à votre passage. Comment allez-vous, Isabelle ?
Eh bien, écoutez, ça va bien.
Bon.
Ça va bien, ça. Mais voilà, donc... alors, moi, mon souci, c'est que... Alors, j'ai appris, il y a à peu près 2 ans de ça, que je souffrais du syndrome abandonique. Donc, on avait mis un mot sur mon mot, sur mon mal. Et donc, voilà. Alors, en fait, moi, je suis née en janvier 63. Mm-hmm. Et cette année-là, il faisait très froid. Cet hiver-là, il faisait très froid. Et donc, j'avais 1 mois et demi quand je suis rentrée, je suis repartie à nouveau à l'hôpital, j'avais attrapé la coqueluche. Et donc, je suis restée 15 jours là-bas.
Donc, séparée de maman.
Voilà, c'est ça. Et à l'époque, donc, moi, j'étais la quatrième. Mes parents n'avaient pas de voiture, ils habitaient à la campagne et l'hôpital était à une trentaine de kilomètres de la maison. Et donc, ils étaient venus, c'est un voisin qui les avait amenés, le dimanche, il les avait amenés pour venir me voir à l'hôpital. Et ma mère me disait d'ailleurs que, donc, alors, je suppose qu'à l'époque, les salles, les bébés étaient tous dans une grande salle, je sais pas, et puis, ils devaient sûrement beaucoup pleurer, ça devait sûrement pas être comme maintenant. Et elle me disait que la fois où ils étaient venus me voir, je pleurais. Mmh. Et elle me dit, on est passé juste derrière la porte. Elle me dit, et tu t'es arrêtée de pleurer. Après, on a continué à marcher. Et elle m'a dit, et tu t'es remise à pleurer. C'est drôle, je ne sais pas si j'avais reconnu les pas, ça m'étonnerait beaucoup, mais bon.
C'est difficile. Il y a une connexion entre le bébé et sa mère. Hein. Mais après, c'est pas évident à vérifier comme ça. En plus, entre ses souvenirs et la réalité, il y a peut-être aussi des choses qu'elle s'est racontées en route. Mais bon, ça, c'est plus compliqué à savoir.
Et alors, mon souci, c'est que... Donc, voilà. Moi, je me dis que le bébé, à ce moment-là, il s'est senti abandonné.
Ça, c'est certain, oui.
Voilà. Et moi, adulte, je sais très bien que j'ai pas été abandonnée parce que... j'aurais été à la place de ma mère, j'aurais pas pu faire mieux de toute façon. Mmh. Mais par contre, c'est quelque chose qui... je me suis rendu compte que je souffrais des séparations. Quand j'ai perdu mon mari, j'ai connu mon mari, enfin, on s'était connus, on avait 14 ans. Et il est décédé, il avait 47 ans. Donc ça fait maintenant 12 ans qu'il est décédé. Mmh. Et c'est... Bon, au début, bien sûr, j'ai souffert de son décès. Mais j'ai souffert pendant au moins 2 ans. Mmh. Et puis après, on va dire que 4 ans après ou 5 ans après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça. Ça n'a rien à voir. Enfin, c'est à ce moment-là, en tout cas, que je me suis rendu compte que je souffrais d'être toute seule aussi. Mis à part la souffrance que j'avais d'avoir perdu mon mari, je souffrais d'être toute seule. Donc j'ai été voir une psy.
Oui.
Mais ça n'a rien fait du tout, quoi. J'ai pas senti j'ai rien senti de... Ça m'a rien fait.
Vous n'avez pas avancé sur votre travail, sur
non.
ce que vous espériez.
Oui.
Il y avait des blocages que vous auriez aimé débloquer peut-être à ce moment-là et que ça n'a pas été le cas.
Eh bien, oui. Mm. Et là, là maintenant, ça va mieux. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis sous antidépresseur depuis le... Bon, même si j'ai baissé ma dose, mais depuis le... Un an, mais même bientôt 2 ans. C'est surtout arrivé pendant le Covid, quoi. Parce que j'ai très très mal vécu aussi. J'ai été toute seule chez moi et ça m'a traumatisée.
Quand vous me parlez de votre souffrance de solitude après la mort de votre mari, vous parlez de solitude amoureuse ou aussi amicale ou pas du tout? Est-ce que vous avez quand même des copines, une vie sociale, des activités? Vous aviez avant le Covid en tout cas?
Alors, le problème, c'est que... Alors, les amis qu'on avait à l'époque, quand mon mari était vivant, bon, mais petit à petit, ils ont... Alors qu'avant, on recevait tous les week-ends, tous les vendredis, on avait beaucoup de monde à la maison. Mmh. Et après son décès, bon, c'est vrai que moi, je l'ai... Le décès, je l'ai... J'ai été tellement, tellement anéantie.
J'imagine.
Et que... Enfin, les gens, quand ils ont vu l'état dans lequel j'étais, je pense que, eh bien, comme ça se fait souvent, on ne sait pas comment réagir et puis eh bien, on laisse un peu tomber la personne, quoi.
Ouais, c'est très égoïste, mais malheureusement très fréquent.
Mmh, ouais.
Et donc, finalement, toute cette vie sociale, c'est un peu étiolée, si je comprends bien.
Voilà. Mmh. Et ensuite, moi, dans mon métier, eh bien, que je suis en relation... Enfin, je ne suis qu'avec des hommes, puisque... Et puisque dans les chantiers, il y a en général...
Un maximum d'hommes, oui.
Ouais, la seule femme. Donc, c'est pareil. Là, je ne peux pas non plus trop faire connaissance avec quelqu'un. En plus, en haut de la grue, on est tout seul, quand même, de toute façon. Mmh. Le seul moment où je les vois, c'est quand je mange avec les gars, quoi. Et en général, alors maintenant, en plus, ils sont très jeunes, donc j'ai plus du tout de chance. Et en plus de ça, bon, en général, les autres personnes, on va dire que des fois, si j'ai vu des gars qui me plaisaient, bon, ben, ils étaient en couple.
C'est pas libre.
Voilà. Donc, dans ce milieu-là, c'était difficile aussi, dans le milieu professionnel, j'avais peu de chance de rencontrer aussi quelqu'un. Ensuite, les sorties toutes seules, eh ben, j'aime pas trop. Mais je m'étais inscrite quand même sur un site de rencontres amicales. Voilà.
Oui, il y a des choses, des sites qui proposent des sorties entre copines, même des vacances entre copines. J'ai vu ça il y a pas longtemps.
Ah, ça, je ne connais pas.
J'ai pas le nom en tête, mais il y a un site qui propose justement de regrouper des femmes qui ont envie de partir ensemble en vacances. Un voyage organisé, il paraît que c'est très sympa.
Ah, d'accord, bon, je regarderai.
Ouais.
Donc, alors, par contre, je ne suis pas du tout asociale. Au contraire, je suis...
Oui, ça s'entend, vous êtes plutôt ouverte.
Hein. Oui, des fois, je vais même travailler en moto. Des fois, même, il m'arrive, quand je suis à feu, de discuter avec le motard qui est à côté.
Ah oui, effectivement, oui.
Ah oui, je suis comme ça.
Vous êtes plus que sociable. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça aide quand même à se faire des contacts, des copines, puis des amis.
Oui, oui. Alors, voilà, de ce côté-là, c'est vrai que, en plus, les personnes que je connais, enfin, ça se passe très bien, donc... Mais alors, je ne sais pas, mais bon, ça, c'est encore une autre question. J'allais dire, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à rencontrer quelqu'un, mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais ce que j'aimerais, c'est, en étant toute seule à la maison, d'arriver à le vivre bien, même si maintenant, malgré que je sois, donc, enfin, pas malgré, justement, heureusement que je suis encore sous antidépresseur, je le vis quand même beaucoup mieux. Mais j'ai quand même ce manque, j'ai envie de partager en fait.
Mais l'antidépresseur ne va pas régler le problème, c'est ça.
Oui.
Ça va juste compenser, calmer les symptômes pour que vous alliez travailler pour régler le problème. C'est ça, évidemment, vous l'avez compris, c'est pas la pilule fait que tout va s'arranger, c'est la pilule qui fait qu'on peut tenir debout pour aller se soigner.
Si je résume. Oui, c'est ça. Mais là, oui.
Ce qui est compliqué dans votre histoire, ce qui est à la fois une chance et extraordinaire et malheureusement un malheur, c'est que vous avez connu votre mari très très jeune, si je comprends bien.
Ouais.
Donc vous êtes passé un peu des bras de la famille à ses bras à lui. Vous n'avez pas vécu une période de jeune femme seule, célibataire.
Non, parce qu'alors honnêtement, en plus je ne l'aurais pas fait. Alors, quand j'avais à peu près 11 ans, j'étais partie, je me rappelle, en classe de neige pendant 3 semaines. Et pour moi, ça a été j'ai un très mauvais souvenir de ça parce que j'ai beaucoup pleuré parce que j'étais séparée de mes parents.
Ça a réveillé la blessure d'abandon, si j'entends bien.
Ben oui, sûrement.
Oui, c'est ça.
Et je me rappelle quand j'étais toute petite, peut-être la première année qu'on m'avait mis à l'école, j'ai encore le souvenir d'essayer de trafiquer le portail pour essayer de m'échapper, pour rentrer chez moi.
Ah oui, donc c'était profond chez vous, cette blessure.
Ouais.
Mais ce qui est intéressant, vous avez dit tout à l'heure, effectivement, on a beau le savoir intellectuellement, on a beau le comprendre et se dire « Maman et papa m'ont aimé, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ça n'était pas du tout un abandon. » Sur le plan émotionnel, C'est pas pour ça qu'on va mieux, malheureusement.
Ouais, c'est ça.
Et c'est là qu'il faut travailler là-dessus. C'est pour ça que je parle très tellement souvent de la petite fille intérieure, parce que c'est vraiment là que le problème se pose. Le nœud, il se fait à ce moment-là. Il ne se fait pas intellectuellement. Quand on va travailler un peu dessus, comme vous l'avez fait, très vite, on peut comprendre les choses, comme vous l'avez très bien compris, d'ailleurs.
Oui.
Mais le travail se fait sur l'émotionnel. C'est-à-dire, l'enfant intérieur, c'est simplement ce que j'appelle le cœur. C'est notre cœur, notre cœur d'enfance, qui en a été, ce qu'on a toujours été, notre être profond, qui a souffert. Cette petite fille, comme vous l'avez bien expliqué, quand elle est arrivée au monde, elle n'a pas compris qu'on l'arrache à ses parents, à sa famille. Qu'on la mette avec d'autres enfants qui pleurent, donc qui lui ont transmis forcément un stress. Vous imaginez ce que c'est que des enfants qui sont seuls, probablement malades aussi, donc inquiets.
Ça,
un bébé est une éponge qui absorbe tout ça.
Oui, c'est ça. Malheureusement, ça provoque chez lui une cicatrice invisible, très profonde quand même, quoi.
Je dirais pas une cicatrice, parce que justement, ça serait une cicatrice le jour où ce sera fermé. C'est plutôt une blessure invisible, qui n'est pas cicatrisée.
Ouais.
Alors, quand vous me parlez de blessure d'abandon et que ça vous met dans des situations, vous avez failli me raconter quelqu'un, puis vous m'avez dit non, je ne sais pas pourquoi je vous parle de lui. Mais en fait, si, parce que tant que vous étiez avec votre mari, il n'y avait pas de blessure d'abandon, puisqu'il était là.
Et non, je ne savais pas surtout. Oui, voilà.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment vous avez fonctionné après avec d'autres rencontres. Et là, vous vous êtes arrêtée quand vous avez commencé à en parler. C'est intéressant, d'ailleurs.
Oui. Alors, on va dire que peut-être, peut-être 3 ans après, donc j'ai fait la connaissance de quelqu'un. Bon, là, c'était dans le boulot, c'est vrai.
Vous voyez comme quoi il ne faut jamais dire jamais.
Oui, mais bon, je ne savais pas. Au début, je ne savais pas qu'il était marié. Après, quand j'ai su, je me suis dit, après tout... Il est grand, il m'avait expliqué que ça allait pas, et puis comment dire ?
Quel mot vous cherchez ?
Je sais pas trop comment l'expliquer, mais. Bon, disons que j'ai rencontré deux personnes sur l'espace de 2 ans. Et ça s'est très bien passé. Mais bon, ça n'a quand même pas fonctionné pour les raisons de... j'avoue encore, c'est pas ma faute, mais j'avoue que le deuxième aussi, il était marié. Et c'était lui qui était aussi, encore une fois, venu me voir. Mais bon.
Alors, c'est pas votre faute, oui et non. Parce que très inconsciemment, je l'explique assez souvent, très inconsciemment, quand on a cette blessure d'abandon... On va aller vers des gens qui, de toute façon, vont devoir nous abandonner d'une manière ou d'une autre. Et quelle est la manière d'être aussi certaine qu'on va être abandonné que de s'attacher à quelqu'un qui n'est pas libre ? Et bien sûr, ça se joue à un plan très inconscient. Mais comme vous dites, deux fois de suite, comme par hasard, vous êtes rapproché d'hommes qui n'allaient pas rester.
Ouais.
Parce qu'ils étaient pris ailleurs.
Mais alors, et donc le troisième, par contre, lui, donc il était divorcé. Mmh. Mais... Alors, le problème, c'est que ça s'est... le premier week-end où on s'est rencontrés, je me suis dit, ça ne va pas le faire. Parce que, alors, il était sympa, mais il y avait beaucoup de choses dans ses attitudes que je n'aimais pas. Quoi. Et je me suis dit, je vais quand même insister, on ne sait jamais. Et j'ai compris, des mois et des mois après, j'ai compris qu'en fait, ce qui m'avait fait que j'avais voulu insister... C'est parce que je l'ai vu tellement attentionné qu'à ce moment-là, je manquais tellement d'attention que finalement,
C'était un baume cicatrisant un petit peu. Quoi.
Et pourtant, je le prenais pas comme ça. C'est-à-dire que lui, j'ai vu qu'il était amoureux de moi. Il est vite tombé amoureux de moi, mais pas moi. Et au bout d'à peu près 2 mois, j'ai commencé à tomber amoureuse de lui. Et lui, à partir du moment où il a vu que ça y est, je tombais amoureuse de lui, il a changé d'attitude. Donc il était, on va dire qu'il m'aimait à sa manière, mais il aimait. C'est-à-dire que je pense que c'était quelqu'un qui, je l'aime, elle m'aime, c'est bien comme ça, et puis c'est tout. Mais moi, j'ai beaucoup souffert du manque de... Il ne me le montrait pas, même si je savais, mais il ne me le montrait pas. Et justement, cette personne-là, je sais qu'il m'a aimée pendant des années et des années. Et là, Donc là, on est encore, des fois, on discute. Et il n'y a pas très longtemps, donc on discutait, et j'ai compris, je m'étais rendu compte, mais sauf qu'il ne me l'avait jamais dit, parce que ben, j'ai compris que depuis quelques mois, il ne m'aimait plus. Et même si je sais que de toute façon, avec lui, je ne veux plus, je veux pas avoir, enfin, recommencer pour la xème fois.
Il n'y a rien à construire avec lui, quoi.
Oui, voilà, ça oui. Mais le fait de savoir qu'il ne m'aime plus, eh ben, ça me blesse parce que, voilà, ça me blesse.
Ça réveille chez vous quelque chose, forcément.
Oui, voilà. Disons que si je sais qu'il m'aime, même si je sais que de toute façon ça se fera pas, bon, mais c'est bien. Mais le fait de savoir qu'il m'aime pas, alors que ça ne change rien à ma vie, eh bien, voilà, ça, j'aime pas. Enfin, ça me rend, quelque part, ça me rend un peu malheureuse.
Parce que dans ce que j'entends, là, on ne parle pas d'amour, on parle de dépendance.
Oui.
Ce n'est pas de l'amour pour lui qui vous manque, c'est l'amour pour l'histoire d'amour. Vous avez besoin qu'on vous aime pour compenser ce que vous avez pris pour un manque d'amour étant petite.
Alors attendez, vous avez dit j'ai besoin quand même...
Pour compenser ce manque d'amour que vous avez vécu, en tout cas que vous avez cru vivre. Il y a eu un gouffre quand vous avez vécu cette séparation avec votre famille.
Oui.
Et ce gouffre, cette cicatrice, on peut l'appeler comme on veut, vous essayez de la compenser, de la colmater. Non, j'allais dire, à la limite, les hommes peuvent être interchangeables. C'est pas eux qui comptent, c'est l'amour qu'on vous donne, qu'on vous apporte, ou l'attention qu'on vous apporte.
Oui, oui.
Et même quand vous n'aimez plus, finalement, vous aurez aimé que même s'il ne vous aime plus,
oui,
il continue à compenser quand même, quoi.
Oui.
Et c'est là où je vous dis, attention, c'est pas de l'amour, c'est vraiment de la dépendance.
Eh oui. Oui, oui, ouais, de toute façon, oui.
Mais quand vous me parlez de thérapie, c'était il y a combien de temps et quel axe avez-vous
Alors donc, j'avais été voir, c'était une psychiatre, et j'ai été la voir peut-être 2 ans après le décès de mon mari, mais justement par rapport à ça, parce que donc je souffrais de solitude et j'ai dû aller la voir pendant, je sais pas, peut-être 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus maintenant. Bon, après, j'ai arrêté. Maintenant, je ne me rappelle plus. Peut-être que j'ai arrêté quand j'ai rencontré après donc la dernière personne. Là.
Parce que je me demande s'il n'y avait pas deux choses qui se sont télescopées à ce moment-là en allant voir une psy. C'est qu'il y avait quand même le deuil de votre mari qui était extrêmement difficile et douloureux à faire. Mmh. Et en même temps, la découverte de ce sentiment de dépendance affective, de blessure d'abandon. Et c'est pour ça que je me demande sur quoi vous avez travaillé, parce que peut-être que si vous avez travaillé, vous étiez en attente peut-être d'une solution sur la dépendance et vous avez plus travaillé sur le deuil.
Ouais.
J'ai du mal à imaginer que vous avez pu tout faire en même temps dans une période aussi douloureuse que ça, vous voyez.
Alors, tout faire en même temps, non. C'est vrai que... ce qu'il y a, c'est qui est horrible dans un cas... Dans des cas comme ça, c'est que on a la mémoire,
sélective.
On retient plus beaucoup de choses. On retient plus beaucoup de choses parce que il y a eu, ben à ces moments-là, on avait le cerveau tellement plein de tellement de choses.
Mais c'est ça, voilà. Et c'est pour ça que je pense que quelque chose à ce moment-là n'a pas été terminé. Vous avez laissé un travail en chantier.
Et oui, et malheureusement, elle est partie à la retraite peu de temps après.
Ça devrait être interdit, la retraite pour les bons psys, on est bien d'accord.
Ah oui, hein, ça je suis d'accord avec vous.
Il ne devrait ni mourir ni partir en retraite, c'est pas possible.
Oui.
Et oui, je rigole, mais il y a tellement de gens qui se sont sentis... Là aussi, on se sent abandonné quand on a été attaché à un bon thérapeute avec qui ça passait bien et que pour une raison ou pour une autre, ça s'arrête. Là aussi, il y a une sacrée blessure d'abandon qui se rejoue.
Oui.
Et depuis, vous n'avez pas cherché quelqu'un d'autre?
Comme psy, vous voulez dire?
Oui, comme psy, oui.
Ou comme... si, j'en ai cherché, mais c'est vrai que... Alors, j'étais tombée sur... j'avais pris rendez-vous avec une autre personne. Elle est... Alors, attends. Psychologue clinicienne, je crois, et elle faisait la méthode EMDR.
Aussi, oui, c'est pour les traumatismes.
Mais là, c'est autre. Alors, en fait, c'est vrai que c'était pas pour les mêmes raisons. Les raisons, c'était que en février 2018, j'ai perdu un de mes frères. Et donc voilà, j'avais. C'est vrai que c'était pas du tout la même raison.
Bah, y a quand même encore une histoire de lien d'attachement et de deuil, quoi, qui reviennent, hein, reviennent.
Chaque fois que j'ai perdu un membre de ma famille, je sais pas, j'ai toujours été beaucoup plus longue que le reste des membres de ma famille. Je le vis différemment, c'est plus profond.
Parce que ça rouvre probablement une cicatrice qui n'avait pas été encore fermée. Donc forcément, ça va plus loin. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui vous questionne alors? Qu'est-ce que vous aimeriez? Sentimentalement, vous en êtes où?
Sentimentalement, pour l'instant, on va dire que j'ai personne. Enfin, il y a un gars au boulot, ça va, on déconne bien, mais bon, il est un peu trop jeune. Enfin, on a 14 ans de différence, donc c'est un peu trop.
Et alors?
Vous savez quoi? Il y a autre chose de marrant, c'est pas le mot, mais je m'étais dit, si un jour, quand je me suis sentie la force de... Enfin, pas la force, mais de... Quand je me suis inscrite sur des sites de rencontres, je me suis dit, je voudrais rencontrer quelqu'un qui est au moins 7 ans de moins que moi. Parce que je me suis dit, les hommes, ils vivent à peu près 6-7 ans de moins que les femmes.
Oh, le calcul!
Oui, et je me suis dit, donc...
Je crois que c'était pour... Je crois que vous allez me dire c'était pour m'éclater un peu avec un plus jeune.
Pas pour calculer
l'âge de la retraite et du départ.
Non, c'est pas ça. Je me suis dit, au moins, parce que si c'est un homme qui a le même âge que moi, il va mourir avant moi. Enfin, normalement, il va mourir avant moi. Oui. Et je vais encore être toute seule.
Je comprends, mais vous comprenez bien que c'est pas rationnel du tout.
Non, je sais. Je le sais, mais c'est vrai que... à un moment, je pensais comme ça.
Oui, ça, c'est la souffrance qui vous a essayé de rationaliser, de reprendre le contrôle sur quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle, en réalité. La longueur de vie, personne n'a le contrôle là-dessus. Personne. Ouais. Et ce n'est pas une question d'âge, malheureusement.
Oui, non, mais bien sûr.
Mais au-delà de ça, pourquoi vous interdire une relation avec quelqu'un de plus jeune? Alors là, franchement, si ça se présente et que ça vous rend heureuse, eh bien, vraiment, je ne vois pas où est le souci. Hein.
On verra bien.
Ce qui compte, c'est pas l'âge, c'est la personne. Hein.
Oui, c'est vrai. Oui, et puis lui, je sens bien que il est différent et c'est vrai que autant l'âge pourrait me gêner avec d'autres personnes, mais lui, il a un comportement avec moi justement qui fait que...
Vous êtes bien.
Voilà, il se passe rien, mais je me dis, parce qu'après, la peur qu'on a aussi, c'est quand on a... Quand il y a autant de différences, on se dit, quand j'aurai
vieille, il va préférer une jeune, oui.
Ben ouais. Voilà. Et justement, avec lui, je me dis, lui, non, je ne pense pas qu'il ferait comme ça.
Ce qu'il faudrait que vous arriviez à comprendre, et peut-être vous allez pouvoir travailler là-dessus, c'est que vous essayez désespérément, et c'est normal après ce que vous avez vécu, de prendre le contrôle de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle.
Oui,
là encore, s'il est plus jeune, alors je serai plus vieille, donc il va me quitter, ou alors il va mourir avant. Vous n'en savez rien du tout.
Oui, ça bien sûr.
Ça, c'est l'illusion du mental, vous voyez. Oui. L'illusion du contrôle.
Oui, c'est sûr. Ah oui, après, quand je pense ça, c'est vrai que c'est pas parce que c'est une moyenne que ça veut dire que même avec moi, ça va m'arriver, quoi.
Ben non, bien sûr.
On va faire partie de cette moyenne, oui.
Est-ce que vous pensez avoir fait vraiment le deuil de votre mari? Est-ce que vous êtes OK avec ça?
Alors, je crois que oui. Oui. Mais je sais que, quand ça se passait mal avec l'autre personne, c'est vrai que là, je regrettais. Je pensais beaucoup à mon mari parce que, on a été très très fusionnels en plus. C'est quelqu'un qui, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer. Et malgré ce qui s'est passé, si c'était à refaire, je referais ma vie avec lui, même si je savais qu'à 47 ans, il...
Ah, c'est beau. Ça, vous voyez, souvent, je dis qu'il faut être... Bien sûr, on est malheureux, on a beaucoup de chagrin quand quelqu'un qu'on aime s'en va, mais il faut aussi savoir dire merci à la vie d'avoir rencontré cette personne.
Ah oui,
C'est beau ce que vous dites là. Si j'avais su qu'il allait mourir jeune, je recommencerais tellement, c'était bien. Quoi.
Oui, parce que c'est vrai que on a été heureux tous les deux Et puis, et c'est vrai que la vie me l'a volé.
Mais la vie vous l'a aussi offert avant.
Oui, c'est vrai. Mais maintenant, elle me fait déguster ce que, le bonheur que j'ai vécu. Maintenant, je le paye. En plus, vous savez quoi ? C'est qu'en plus de ça, j'ai eu la chance de vivre dans une famille où j'ai toujours... pour moi, j'ai toujours été heureuse jusqu'à ce que mon mari... on apprenne qu'il... En fait, il a été malade pendant 4 ans et demi. Il avait un cancer. Il est décédé 4 ans et demi après. Donc, jusqu'à ce qu'il soit malade, j'ai eu une enfance, une vie... j'ai vécu dans le bonheur, voilà. On était donc 9 à la maison, moi j'étais au milieu. Enfin, 9, donc 7 frères et sœurs. Moi j'étais au milieu. Donc je suis la 4e, en partant du haut ou du bas. Et voilà, et j'ai eu une vie que je souhaiterais à tout le monde, enfin, avec le bonheur que j'ai eu.
Mais vous voyez, vous avez dit quelque chose de très important, Isabelle. Et là, je me rends compte qu'il va falloir travailler aussi là-dessus. Vous m'avez dit, tout ce bonheur que j'ai eu, aujourd'hui je le paye. Il n'y a rien à payer dans la vie. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle une croyance limitante. Il n'y a rien à payer. Et ce n'est pas parce qu'on a été heureux qu'il faut se dire, bah, finalement, j'ai mangé mon pain blanc et que je n'ai pas le droit d'être heureuse encore.
Oui. Non, mais même...
Vous n'avez rien à payer. Et vous avez parfaitement le droit de continuer à être heureuse autrement avec d'autres personnes.
Ouais.
C'est même le plus bel hommage qu'on peut rendre à quelqu'un qu'on a aimé, d'être heureux, de continuer à l'être. Aujourd'hui, il vous reste... Au début, vous le savez mieux que moi, au début, quand on perd son conjoint, on a l'impression que c'est insurmontable, qu'on refera jamais surface, et puis on refait surface, et puis on vit avec les souvenirs, et vous en avez beaucoup de beaux, c'est votre richesse.
Oui.
Ça, c'est quelque chose que personne ne vous prendra jamais. Mais aussi, vous accordez le droit maintenant d'être heureuse, il n'y a rien à payer.
C'est vrai que je ne le pense pas vraiment, mais il y a des fois... Je me dis, en général, les gens ils souffrent. Et puis après, quand ils connaissent le bonheur, effectivement, c'est l'extase. Et moi, j'ai...
Mais le bonheur, c'est pas une destination, vous savez, c'est ce qu'on appelle un chemin. Ça vient, ça repart, c'est tous les jours. Il n'y a pas un bonheur, il y a des bonheurs.
Oui.
Le bonheur, c'est pas un état permanent, ce sont des moments, des rencontres, des choses, des instants.
Oui.
Ça n'est pas un pays, malheureusement, le bonheur.
Oui, dommage, sinon je serais partie habiter là-bas. Non, je sais, mais... mais voilà, moi, c'est vrai que... disons que ce que je comprends pas, c'est que le jour où j'ai compris que je n'ai pas été abandonnée, je sais pas pourquoi pourquoi j'arrive pas à me défaire quand même de... Pourquoi ça ne me rend pas différente ?
Alors, j'imagine que vous avez posé la question à d'autres psys, à d'autres thérapeutes. Moi, je ne suis pas psy, donc je ne vois pas les choses de la même manière.
Oui.
Ce que je vous ai dit, moi, c'est pour ça que je travaille en hypnose thérapeutique, c'est parce que justement, on travaille sur la partie émotionnelle.
Oui.
La partie intellectuelle, une fois qu'elle a bien compris les choses, c'est une étape de franchie. Mais ça ne suffit pas, la preuve.
Oui.
Il faut aller travailler sur l'émotion qui est coincée.
Oui. Et bien, justement, j'avais été voir une hypnotiseuse, enfin je sais pas comment dire.
Hypnothérapeute ?
Oui, une hypnothérapeute. J'avais été la voir peut-être un an après le décès de mon mari, ou non, quelques mois après le décès de mon mari, parce que je souffrais beaucoup. Et c'est marrant parce que le lendemain d'avoir été la voir, comment dire, c'est comme si j'avais... Je gardais, alors c'est difficile de l'expliquer, je gardais cette souffrance mais qui ne me faisait plus mal.
Mais c'est le propre de l'hypnose ou de l'EMDR.
Ouais.
C'est-à-dire que, bien sûr, on n'efface pas, mais c'est la douleur qui s'efface petit à petit.
Oui,
qui
c'est s'atténue. Ça.
Ouais. Mais je pense que là aussi, vous voyez, on passe de l'un à l'autre à chaque fois. Il y a deux sujets. Il y a le deuil de votre mari et il y a cette blessure d'abandon.
Oui.
Et là, je pense qu'il y a encore un chemin à faire, un petit travail à faire, que ce soit en hypnose, en EMDR ou en thérapie plus classique, sur cette blessure d'abandon. Moi, avec vous, là, je pencherais vraiment pour l'hypnose thérapeutique, pour travailler que sur l'émotionnel. Il n'y a plus besoin de parler, d'expliquer les choses. Vous avez très bien compris, vous avez très bien expliqué, vous savez. Mais il y a l'émotion qui est bloquée. Donc, il faut débloquer vos émotions.
Oui.
Et puis, à un moment donné, vraiment vous autoriser à aller de l'avant et être heureuse, tout simplement. Tout simplement.
Oui, alors ça, par contre, ça ne me dérangera pas. En fait, je veux dire...
Oui, mais paradoxalement, vous vous en empêchez à chaque fois, en choisissant inconsciemment les mauvaises personnes.
Oui, c'est vrai. Non, mais là, peut-être que celui-là, finalement, je vais bien réfléchir.
Mais attention, n'attendez pas de lui qu'il vous soigne ou qu'il vous répare. Ce n'est pas à lui de le faire.
Non.
Vous le savez.
Oui.
Bon.
Non, moi, la seule chose que j'ai envie, c'est de me sentir heureuse. Enfin, et je sais que je peux être heureuse avec quelqu'un qui me convient et à qui je conviens.
Bon, voilà. Moi, je suis plutôt rassurée pour vous, Isabelle. Je pense qu'il y a juste un tout petit travail encore sur l'émotionnel à débloquer.
Oui.
De la manière qui vous conviendra le plus avec la personne qui vous conviendra le mieux. Et quand ce sera débloqué, vous avez une belle vie devant vous. Vous allez voir une autre partie de vie qui sera différente. Il n'y aura pas de comparaison, mais c'est autre chose. C'est tout. C'est la vie qui continue.
Oui, oui. Et je voulais vous demander, je me suis acheté des bols tibétains. Est-ce que vous croyez que ça peut aider aussi?
Alors, j'y connais pas grand-chose, mais je sais que les vibrations, la sonorité de ces bols-là peut apaiser. Oui. Mais ça ne se fait pas vraiment tout seul. Je pense que ça se fait aussi avec quelqu'un qui sait s'en servir. Mais là, c'est intéressant aussi tout ce qui est vibrations sonores sur le corps. Ouais. Mais je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus, je ne vais pas dire de bêtises, ce n'est pas ma spécialité du tout.
Oui.
Je sais que les sons, les vibrations ont une répercussion sur le corps et donc aussi bien sûr sur l'esprit.
Oui.
Vous pourriez voir quelqu'un qui connaît ça mieux que moi, ça peut être intéressant aussi. Ouais. Mais ça, c'est plus pour de l'apaisement physique et mental. Ce n'est pas une thérapie, c'est un apaisement.
Donc le mieux, alors, c'est d'aller voir une hypnothérapeute.
Moi, je pense que sur un cas comme ça où on est vraiment, vraiment à fond dans l'émotionnel et que le reste a déjà été bien analysé, oui, tout à fait.
D'accord, ouais.
Mais et si possible, quelqu'un qui pratique aussi l'EFT ou le MDR.
EFT ?
EFT, Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. Ça fonctionne par des stimulations physiques, c'est-à-dire on tapote sur des points précis du corps en répétant plusieurs fois des phrases précises pour s'en libérer.
Ah ouais, d'accord.
Mmh. Ouais. Ça fonctionne d'accord. aussi très très bien, l'EFT. Mais pour vous, c'est pas forcément ce que je ferai en premier. Ça serait vraiment de l'EMDR ou de l'hypnose. Vous l'avez fait à l'époque, l'EMDR, ou pas d'ailleurs?
Oui, alors, donc je l'avais fait par rapport à mon frère.
Oui, c'est ça. Donc c'est ça qui vous a apaisé. Oui.
Mais après, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais quand même en plus pas mal de problèmes de santé, enfin, de mal de dos et tout. Et à ce moment-là, j'allais voir beaucoup de... Alors,
des thérapeutes.
Donc thérapeutes aussi, des...
Vous cherchez de l'aide un peu partout, quoi, si je comprends bien.
Aussi pour mes douleurs de dos. Oui. Et donc, c'était que des trucs qui n'étaient pas remboursés. Et donc, finalement, commence à faire...
Ça fait cher au bout d'un moment, oui, je comprends.
Oui, voilà. Et donc, après, finalement, j'ai arrêté le MDR. Mais je vais voir, alors, peut-être... je vais revenir sur...
En tout cas, vous avez compris le principe de l'EMDR, c'est que ça permet de digérer des morceaux qui sont restés coincés dans l'émotionnel.
Oui.
Et de les faire passer dans la partie intellectuelle du cerveau. Vous savez, j'ai souvent expliqué ça, les trois étapes. Notre cerveau, il y a la couche du cerveau qui s'occupe de la réaction, la couche du cerveau qui s'occupe de l'émotion et celle qui s'occupe de la réflexion.
Oui.
Mais quand c'est trop gros, ça reste coincé au niveau de l'émotion. Et c'est là qu'on déclenche des dépressions, des phobies, des crises d'angoisse, toutes ces choses-là.
Oui.
Parce que le morceau est trop gros.
Oui.
Et en stimulation bilatérale, oculaire, mais pas que oculaire d'ailleurs, quelquefois on me pose la question, je vais en profiter pour y répondre, on me demande si quelqu'un qui a des problèmes de vision ou des douleurs dans les yeux peut faire de l'EMDR. L'EMDR, à la base, est une stimulation bilatérale alternée des yeux.
Oui.
Mais on peut aussi faire une stimulation bilatérale alternée avec des sons, oreille gauche, oreille droite, ou avec le toucher. En tapotant sur un genou, par exemple, un coup à gauche, un coup à droite. Donc, il faut adapter ça en fonction, bien sûr, des pathologies de chacun.
Ah oui, elle m'avait fait ça un peu aussi, je me rappelle.
Pardon ?
Elle m'avait fait ça aussi,
d'accord. Elle est passée par plusieurs canaux, oui.
Oui, parce que j'arrivais pas à... Parce qu'il fallait que je réfléchisse à des choses et en même temps que je suive la lumière. Et j'arrivais pas à faire les deux.
Elle le faisait avec la lumière, elle. Oui, je suis moins fan, moi, de ça. Je préfère le faire avec le doigt, parce que je trouve qu'on est plus présent quand même à la séance.
Ouais, ouais. Et après, finalement, elle s'est mise à côté de moi et puis elle me tapotait sur d'abord une cuisse et après l'autre.
Parce qu'on peut effectivement soit faire suivre une lumière par les yeux, mais je trouve que c'est assez distant. Il n'y a pas de...
Oui,
ce qu'on appelle la congruence entre un patient et son thérapeute. Alors que quand on vous demande de suivre le doigt, il y a vraiment un échange qui se fait. On est vraiment dans l'émotion du patient.
Ah oui, oui, oui.
ouais. plutôt de laisser tout seul, allez regardez votre lumière et faites le boulot, c'est,
ça me ouais, ouais, ouais,
j'aime pas trop. Donc ouais, c'est ouais. bien qu'elle se soit rapprochée de vous après pour travailler différemment.
Ouais.
Ouais. Ben voilà quelques clés, Isabelle. Je suis sûre que maintenant vous allez trouver les bonnes portes à ouvrir et que ça va aller de mieux en mieux.
Oui, moi aussi. je vous tiendrai au courant.
Avec plaisir. Je vous souhaite plein de bonheur.
Oui, moi aussi. Je vous embrasse bien fort et puis ben merci. Puis je vous l'avais dit l'autre fois, mais je vous le redis, je vous adore.
C'est gentil. Je vous embrasse fort, Isabelle. À bientôt.
Moi aussi. Au revoir.